C'était journée de deuil le 1er juillet pour certains joueurs de jeux vidéo, les partisans du format physique, puisque Sony a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2028, les jeux sur la galette, sur le disque, c'était fini. Et ça a fait grincer beaucoup de dents. Mais est-ce que ça annonce forcément la fin du jeu vidéo physique au profit du 100% dématérialisé? C'est peut-être pas si simple. On en parle avec vous. Pierre-Xavier Chaumiac de SAS, bonjour.
Bonjour.
Habitué du plateau de PlaySmart. Techniquement, si on rentre dans les grandes lignes, l'annonce de Sony, qu'est-ce que ça va changer concrètement en 2028 ?
Pas tant de choses que ça, en réalité. Le mouvement de dématérialisation des contenus est quelque chose qui existe et qui s'est développé même depuis les années 80 et avec évidemment Internet, avec le cloud gaming, etc. Donc, en réalité, c'est juste le positionnement d'un acteur majeur qui décide de rejoindre une lignée qui vise à, finalement, pour plein de raisons variées, à faire du tout dématérialisé. C'est bien pour permettre de transférer plus de contenu, c'est bien pour la sécurité des jeux au profit et la mobilité des jeux au profit des utilisateurs qui pourront y accéder un petit peu partout. C'est bien pour des considérations qui peuvent être écologiques, de gains, de confort, de démocratisation de la création.
Est-ce qu'on est sûr que ça pour l'écologie, puisqu'il faut quand même télécharger les jeux, il faut les stocker, donc c'est ce qu'on ne va pas avoir chez nous en format physique, il y aura bien un effort fait ailleurs pour stocker toutes ces données.
Alors, en effet, c'est un débat intéressant. En réalité, créer le support physique, le transporter, le corriger ou le rattraper lorsqu'il y a des bugs ou des dysfonctionnements, il y a un débat et il me semble-t-il en
principe. On a quand même du mal à s'imaginer que Sony fait ça pour des considérations écologiques sur le plan du rapport avec les consommateurs. Le fait d'avoir du 100% des maths, ça change quand même beaucoup de choses sur... Par exemple, la propriété des jeux. On ne sera plus propriétaire des jeux.
Oui, tout à fait. C'est là où c'est très inquiétant. C'est-à-dire la tendance contemporaine, notamment lorsqu'on regarde les conditions générales des jeux, indique que lorsque les biens sont intégralement dématérialisés, vous n'en avez aucune propriété ou la possibilité de le revendre après sur un marché d'occasion et vous n'en avez qu'une licence. Ça a été aggravé ces dernières années avec, on l'a vu avec l'affaire de The Crew du jeu.
Contre l'UFC Que Choisir, déjà, c'était une première fois où on vous avait reçu. Mmh. Il y avait déjà des décisions. Et puis là, récemment, We Stop Killing Games, l'Union Européenne,
exactement,
se positionne quand même plus en faveur des professionnels plutôt que des clients.
Avec cette difficulté qui est qu'en effet, non seulement les jeux ne nous appartiennent pas, mais en plus l'éditeur ou les éditeurs ou les plateformes auraient la capacité de pouvoir supprimer de façon plus ou moins discrétionnaire l'accès aux jeux. Et à nouveau...
Là, on parle des jeux services, mais là, pour PlayStation, ce serait aussi des jeux, par exemple, narratifs qui se jouent en solo. C'est encore autre chose.
C'est à nouveau la même chose, puisque c'est dématérialisé. Ça veut dire que si on coupe l'accès au serveur, on ne pourra plus y accéder ou y jouer.
Alors, sur la galette, le jeu, en fait, dès lors qu'il est dessus, par exemple, des jeux PlayStation 2 sont encore accessibles pour ceux qui ont les jeux chez eux, par exemple.
Exactement.
Ce qui est un peu paradoxal, quand même.
Ce qui est fondamentalement paradoxal, mais ce qui, à nouveau, fait écho à d'autres industries de contenu numérique. On peut penser au DVD ou au CD, on peut penser à la musique.
On trouve toujours du physique dans certains magasins, chez certains distributeurs. Et là, la question pour Sony, parce qu'on parle du 100% ou quasiment 100% dématérialisé dans l'univers du PC, ça fait 20 ans. Sauf que dans le PC, on peut acheter un ordinateur. En fait, il n'y a pas de monopole d'une machine. La PlayStation qui sort une machine 100% digitale, c'est peut-être risqué par rapport à la concurrence, puisque les concurrents, les autres consoles peuvent se dire, si on garde une possibilité de physique, c'est un avantage concurrentiel quand même.
Oui, tout à fait. Et après, ça devient des choix stratégiques, en effet, entre éditeurs, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant ou pas. L'interopérabilité de la plus grande partie des jeux et des licences aujourd'hui, en effet, laisse penser qu'il y aura une vraie guerre entre éditeurs et constructeurs de consoles. On verra après, in fine, finalement, s'il y a un véritable enjeu ou un intérêt aujourd'hui pour les personnes de garder cette copie physique. Outre, en effet, pour la préservation du patrimoine vidéoludique, ou alors, en effet, pour les collectionneurs qui veulent garder ça, aujourd'hui, bien évidemment.
Ceux qui veulent acheter d'occasion pour payer moins cher.
Par exemple, tout à fait.
Il y a plein de questions qui s'ouvrent, et notamment donc, sur cette concurrence entre les créateurs de consoles qui vont peut-être, pour certains, se dire grâce au physique, on peut quand même garder une partie du public, car si on regarde les chiffres du CEL, sur les jeux complets, on n'est pas dans une énorme différence. C'est 40-60% et non pas des 80-20% d'acheteurs. Parce que quand on compte dans le démat, si on met le jeu portable, forcément, ou les DLC, ça gonfle le score du dématérialisé. Donc ça, c'est un débat qu'on aura peut-être encore la saison prochaine dans Play Smart. Merci beaucoup, Xavier-Pierre Chaumiac de SAS, avocat spécialiste droit du numérique, qu'on accueille régulièrement sur le plateau de Play Smart. On continue avec un grand patron, Geoffroy Sardin, c'est le patron de Pull Up, et vous allez voir, son entreprise, elle continue de faire du physique, et c'est un choix aussi stratégique. Vous allez le voir tout de suite.